Bien, bonjour à tous. J'ai avant toute chose les salutations de quelqu'un qui vous aime particulièrement à vous transmettre, donc Ludovic Angèle, qui m'a chargé expressément. Il m'a dit « Jean, surtout n'oublie pas de transmettre mes salutations à toutes les sœurs et tous les frères de l'église de Grenoble ». Voilà, c'est fait. Je suis en paix. Je pourrai le regarder en face quand je vais le revoir. Il va très bien et nous allons connaître les mêmes émotions qui vous ont traversées il y a quelques années, puisqu'il doit quitter Paris pour se rendre dans sa région natale, la belle Alsace. Il a trouvé là un nouveau travail. Alors il va nous quitter et nous le déplorons. Nous vous remercions pour la formation spirituelle que vous lui avez communiquée, pour tout ce qu'il a reçu chez vous, parce qu'il a pu nous en faire profiter à Paris. Et il est vraiment exceptionnel. Hein. Et je crois que la fille qui va l'épouser, elle va être heureuse. Hein. Bon, maintenant, ça, c'est entre les mains du Seigneur. Mais je peux vous dire qu'à Paris, il y a beaucoup de jeunes filles qui sont en train de pleurer. Enfin, bon. Je suis très heureux de me trouver parmi vous. J'ai évidemment les salutations de l'Église de Paris-Nation à vous transmettre, de mon épouse Annie, de celui que vous connaissez certainement mieux que ses parents, c'est-à-dire Mathieu, qui lui est à Emmaüs pour le Forum des évangélistes avec un groupe de jeunes hommes et de jeunes femmes de l'Église de Paris-Nation. Ce matin, j'aimerais qu'ensemble nous puissions nous pencher sur un texte que vous connaissez certainement par cœur, qui se trouve dans l'Épître aux Philippiens au chapitre 4, et les versets 4 à 9. Pour réfléchir ensemble au contexte dans lequel ce texte nous a été transmis par le Saint-Esprit au travers de l'apôtre Paul, et puis pénétrer un petit peu en avant dans ce qui nous est proposé par le Seigneur au travers de ces quelques versets. Donc, Philippiens, chapitre 4, des versets 4 à verset 9. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. » L'épître aux Philippiens, c'est, comme vous le savez, l'épître de la joie. Et lorsque l'on parcourt cette épître, ce verset 4 du chapitre 4 est connu par cœur. Hein. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous », c'est même un petit cœur évangélique. Hein. Mais quand on regarde la construction de l'épître, si on se retrouve au chapitre 2, verset 18, on voit que cette injonction qui nous est donné pour la joie, se retrouve au chapitre 2, verset 18. Paul va dire « Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. » La même invitation, chapitre 3, verset 1. « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. » Et puis, il faut également comparer le chapitre 1, les versets 3 à 5 du chapitre 1, lorsque Paul dit « Je rends grâce à mon Dieu » de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Ce qui est intéressant, c'est que... Et chapitre 1, verset 18, pour cette dernière citation, « Qu'importe, dit l'apôtre, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'en est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Mais quand on replace tous ces versets que je viens de citer dans leur contexte, alors on découvre véritablement ce qui se passe et dans quelles conditions l'apôtre arrive à se réjouir. Chapitre 1, verset 18, « Qu'importe de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'en est pas moins annoncé, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. » Les versets 15 à 17 nous donnent le contexte. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ pour des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'en est pas moins annoncé, je m'en réjouis, je m'en réjouirai encore. L'apôtre, comme vous le savez, est en prison. Certaines personnes cherchent à lui susciter quelques tribulations. Et face à cette opposition, situation d'emprisonnement et opposition de la part de certains qui prêchent Christ par esprit de dispute, l'apôtre arrive à se réjouir. Si vous prenez le chapitre 2, verset 17, « Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je m'en réjouirai avec vous tous. » Tout à l'heure, nous avons lu au verset 18 de ce même chapitre 2, « Vous aussi réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. » Et même si je sers de libation, une libation c'est une offrande, donc l'apôtre est en train de simplement de dire « Ma vie est une offrande pour Dieu, je donne ma vie au Seigneur, je ne regarde pas à ma vie, je vis pour Christ, Christ est ma vie, comme vous le savez. » Donc il est en prison, il ne sait pas s'il va sortir de prison ou être condamné à mort. Mais il est prêt à livrer sa vie. Alors il dit, et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Son avenir est incertain, enfin sur le plan éternel, quoi qu'il lui arrive, il est en présence de Dieu, mais sur le plan humain, son avenir est incertain. Et il arrive à se réjouir. Ensuite, nous avons lu au chapitre 3, verset 1, « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. » Et lorsqu'on se transporte dans les versets 26 à 28 de la fin du chapitre 2, il est question d'Épaphrodite. Il parle d'Épaphrodite, son compagnon d'œuvre, et il dit « Épaphrodite désirait vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le revoir, et que je sois moi-même moins triste. » L'apôtre Paul parle très peu de ses émotions dans les épîtres. Mais là, il est en train de lever le voile sur ce qu'il vit, sur les émotions de son âme, sur tous les chocs affectifs, spirituels, les combats, les luttes, et il parle de tristesse sur tristesse. Je ne sais pas comment on imagine l'apôtre Paul, toujours sur les cimes, remportant victoire sur victoire, comme s'il n'y avait pas, en même temps que les victoires, de nombreuses souffrances, douleurs, à cause de l'opposition, des critiques. Vous savez que l'apôtre Paul est celui qui a été critiqué sur tous les aspects de sa personne et de son ministère. Vous parcourez les épîtres et vous découvrez cette défense qu'il est obligé de développer, cette plaidoirie, pour démontrer qu'il est l'apôtre, appelé par Dieu, investi d'une mission particulière. En permanence, il a été critiqué à tous les niveaux de sa personne. Et pourtant, il parle de se réjouir, d'être dans la joie. Et là, il nous parle « afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse ». Je ne sais pas si l'apôtre Paul pleurait de temps en temps, mais je pense qu'il devait être très proche des larmes. Son âme devait être torturée parfois par toutes ces accusations, ces calomnies, etc. Ensuite, au chapitre 1, versets 3 à 5, « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie. » Les versets 12 à 14 nous apprennent ce que vous avez déjà lu. « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. » C'est le comble, il est, comme je vous le disais, en prison. Mais il a cette capacité, par la grâce de Dieu et dans sa relation personnelle avec Dieu, dans cette réflexion qu'il a sur lui-même et sur sa vie, il a la capacité, il a appris à se réjouir en toute situation. Dans les larmes, dans l'opposition, face aux calomnies, quelles que soient les situations, privées de liberté, comme c'est le cas, alors il sait en Christ se réjouir. En conclusion, on peut dire, concernant ce thème de la joie, que dans l'Épître aux Philippiens, c'est la joie malgré tout. C'est la joie dans la difficulté, c'est la joie malgré tout, c'est l'histoire de nos vies en tant que chrétiens. Vous connaissez des désappointements, des difficultés qui elles viennent de nos propres péchés, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. J'ai oublié le cantique, mais j'étais très, sensible à toute la présidence de notre frère là, et aux chants qui ont été donc proposés. Et nous venons devant le trône de la grâce avec nos péchés, nos cœurs tortueux, orgueilleux, etc. Et nous avons nos souffrances. Mais en même temps, les Saintes Écritures nous apprennent par la bouche de Paul, ou plutôt ses écrits, cette capacité de vivre ce que seul le christianisme nous permet de vivre, une réalité de vie humaine dans un monde qui s'est opposé à Dieu, en même temps la réalité de la joie du Christ. C'est donc une joie malgré tout. Armons-nous pour cette nouvelle année qui commence de cette réalité, la joie en Christ malgré tout. Je ne sais pas ce que Dieu vous réserve, je ne sais pas ce que le Seigneur me réserve, mais ce que je tiens à souligner ce matin, c'est cette vérité toute simple. La joie en Christ est possible malgré tout. Ça me rappelle un jeune chrétien avec lequel je prenais un repas et qui m'a dit, Jean, je voudrais te poser une question. Il m'a dit, je suis toujours joyeux. J'ai rencontré Christ il y a à peu près 2-3 ans, si je ne me trompe. Je suis toujours joyeux, quoi qu'il arrive. Et il me dit, l'autre jour, j'étais avec des chrétiens, on discutait. Et il y en a qui m'ont dit, tu sais, t'es jeune chrétien et tu vas voir dans quelques temps, la joie, machin, ça va partir. Alors, et il me regarde avec un regard un petit peu inquiet de ma réponse. Et il me dit, et toi, qu'est-ce que t'en penses? Et moi, j'éclate de rire et je lui dis, mais c'est normal que tu sois joyeux et que tu le demeures, quoi qu'il arrive. Je lui dis, ne te laisse jamais arracher, ravir ce que le Saint-Esprit te communique dans la communion avec Christ, la joie du Seigneur. Oh, il me dit, ça me fait du bien, on peut donc souffrir et être joyeux. J'ai dit, oui. Alors il m'a dit, oh, ça me fait du bien. Et c'est cela, dans le fond, que l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, veut nous communiquer. N'oublions pas que dans l'optique chrétienne, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous, c'est la forme impérative. Dans l'optique chrétienne, se laisser réjouir, consoler, fortifier, encourager, est un commandement comme un autre. Ne l'oublions pas, c'est un commandement comme un autre. Se laisser réjouir par Dieu. Ça va ? Se laisser réjouir par Dieu, quoi qu'il arrive. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Ce tandem joie et douceur, c'est quand même quelque chose de remarquable. Je le disais hier soir, quand on est joyeux, on est souvent doux. quand on est irrité, on a du mal à être doux. Hein. Parce que quand on est irrité, on a perdu sa joie. Et donc, on a du mal à être doux. Ce qui est intéressant, là, c'est que le mot douceur peut aussi, bien entendu, se traduire par votre bonté. Parce que dans le fond, les différentes facettes de la douceur s'expriment, entre autres, par la bonté, l'indulgence, la disponibilité, votre don de sympathie, ce qu'on appelle l'empathie. Hein. En même temps, votre mesure. C'est intéressant l'aspect douceur et mesure, c'est-à-dire, dans le fond, contrôle de soi. Mais la douceur n'est pas quelque chose de naturel. Et c'est donc Dieu, par notre rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, qui va développer la douceur dans nos vies. Et la douceur, comme nous l'avons chanté, je m'excuse, je n'ai pas la mémoire du cantique, j'aurais dû le noter, mais comme nous l'avons chanté, c'est Dieu qui nous transforme. C'est donc Dieu qui va nous communiquer la douceur, sa douceur, au travers des difficultés, au travers des désappointements liés à ce que l'on découvre en nous-mêmes et liés aussi aux pressions extérieures et aux injustices que nous pouvons subir. Les chrétiens, dans leur progression avec le Seigneur, sont des êtres qui ont été rendus doux et tendres. Le travail de Dieu dans nos vies, c'est de nous rendre doux et tendres. Quelqu'un de spirituel sera doux et tendre. Pourquoi ? Parce qu'on a été vaincu par la grâce. Nous l'avons aussi chanté, le pardon de nos péchés, la grâce du Seigneur qui nous est accordée. Vous savez comment Dieu nous rend doux ? En usant de compassion et de miséricorde vis-à-vis de nous. En soulignant la réalité de nos difficultés, de notre péché, de notre orgueil, et en même temps en nous pardonnant. Il y a ce fameux verset dans les Saintes Écritures qui dit « Dieu pardonne nos péchés afin qu'on le craigne ». C'est une pédagogie extrêmement profonde et intelligente. Il n'y a rien de plus désarmant que l'amour. Quand vous savez que vous méritez d'être condamné, quand votre conscience et votre âme vous en témoignent et que vous recevez le pardon, il n'y a rien de plus désarmant que l'amour. Et c'est ainsi que Dieu nous rend doux, parce qu'il nous apprend véritablement qu'il nous aime. Il nous apprend de fait à patienter lorsque les choses ne se passent pas comme on voudrait. Dieu développe et affermit et approfondit notre foi, notre regard sur l'invisible. C'est ce qui nous permet, face aux difficultés, quelles qu'elles soient, petit à petit de progresser dans la douceur. Au lieu de toujours vouloir faire en sorte que les choses changent quand elles sont désagréables, eh bien Dieu nous apprend effectivement la patience, la dépendance, l'attente, porter le joug d'une difficulté qui nous est imposée, voire d'une injustice. Et oui, Dieu nous rend doux et tendres en opposition à ceux qui n'ont pas reçu la grâce et qui peuvent toujours se montrer raides parfois et hérissés. Vous connaissez peut-être dans le monde du travail, j'ai été longtemps chrétien dans le monde du travail, j'avais des collègues qui, dès qu'on leur disait quelque chose, ils étaient hérissés et puis raides. Alors que le Seigneur, j'ai dans certains cas été ainsi, hein, raide et hérissé. Et puis le Seigneur apprend la douceur et nous transforme véritablement. Je regardais une émission à la télévision l'autre jour, c'était sur la Bretagne et les produits bretons, le beurre salé. Et il y a, j'ignorais beaucoup de choses sur le beurre salé et sur le beurre en général. Et alors là, le journaliste se rend dans le marché couvert de la ville de Rennes et il s'arrête devant l'étal d'une spécialiste du beurre breton. Et là, vous aviez une énorme meute de beurre, et il demande une demi-livre de beurre, et la professionnelle donc taille dans cette meute quelque chose qui correspond à une demi-livre, mais ça n'a aucune forme. Et alors, à ce moment-là, elle prend deux espèces de petites raquettes en bois, là, et puis elle commence à taper son beurre, comme ça, dans tous les sens, mais avec une force. Hein. Et alors, le journaliste lui dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Alors elle dit, je suis en train de façonner le beurre et de faire sortir le petit lait. Et puis elle, tac, vous aviez une demi-livre de beurre. Là. En formé. Hein. Et puis, je regardais ça, puis je me dis, ben, c'est un peu ce que Dieu fait. Il est là, boum, 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 en train de nous tailler, là. Et pour faire sortir le petit lait, enfin, pour nous, ce n'est pas le petit lait, mais tout ce qui est tous nos défauts, là, toutes les œuvres de la chair pour remplacer par la douceur du beurre salé, pour ceux qui aiment cela, hein, ou la douceur du beurre doux. C'est la grâce de Dieu, ça. C'est pour ça que l'apôtre, avec cette expérience d'opposition, de souffrance, de déconvenu, de situation inattendue, l'apôtre accède à la douceur au travers de l'opposition. Que durant cette année, nous n'oublions pas ce que les Saintes Écritures nous enseignent. Au travers de toute difficulté, le Seigneur veut nous communiquer sa douceur, sa grâce, et nous rendre ainsi des personnes compatissantes, indulgentes, dans la sainteté de Dieu et dans sa pureté. L'idée est donc la suivante, la joie dans le Seigneur engendre une vraie égalité d'humeur, la mesure. Quand on est doux, rendu doux par le Seigneur, en progression dans la douceur, il s'ensuit une égalité d'humeur face aux situations. Il s'ensuit une foi fondée, posée, voyant l'invisible, tranquille face à l'opposition. Pourquoi ? Parce qu'une foi qui, par la grâce de Dieu, nous permet de regarder à lui. Ce que l'apôtre Paul expérimentait. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une idée sous-jacente, me semble-t-il, dans ce texte, qui est la suivante. Au lieu de nous laisser inquiéter par la pression que nous subissons, inversons les choses. Faisons plutôt luire devant les gens la douceur que cette inquiétude produite par l'opposition doit produire en nous. Au lieu d'être stressés, donnons au Seigneur ce que les sentiments que nous ressentons et peut-être l'injustice de la situation que nous connaissons, pour exprimer la douceur dans l'opposition. Inversons le processus naturel de nos réactions, en demandant à Dieu, bien entendu, de nous conduire dans ces choses. Voyez comment le Seigneur veut inverser les réactions naturelles, en nous communiquant sa nature. Il est certain ici que votre douceur soit connue de tous les hommes. Il est certain ici que tout est solidaire quand... il utilise ces mots, être connu de tous les hommes, ça nous fait penser au verset 15 du chapitre 2 de l'Épître aux Philippiens. Faites toutes choses, sans murmure, ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. La manière de briller, entre autres choses, c'est celle de l'expression de la douceur dont Dieu nous a équipés et que Dieu développe dans nos vies. Verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Quand on analyse la phrase, ce qui est intéressant, c'est que l'accent de la phrase ne repose pas sur le fait que les chrétiens doivent prier et supplier, ni sur le fait qu'ils doivent exposer leurs besoins à Dieu, ce qui est tout à fait évident, mais bien sur le fait qu'ils doivent le faire avec des actions de grâce. Le cœur de la phrase, c'est cela. Faites connaître vos besoins avec des actions de grâce. Et c'est vrai qu'il faut commencer par louer Dieu de ce qu'il est un Dieu puissant, dans la situation présente que nous connaissons, chacun pour nous-mêmes, telle qu'elle est, cette situation, parce que commencer à louer Dieu, à rendre grâce, c'est le commencement de la fin des soucis. C'est cette façon que Dieu nous propose de sortir de la pression des soucis, faire connaître à Dieu nos besoins et lui rendre grâce pour ce qu'il est et pour ce qu'il va faire. C'est donc un processus qui, par la verbalisation de notre situation, parce que la prière, c'est une verbalisation, On ouvre notre bouche, on formule nos émotions et nos besoins, on verbalise. Et Dieu, lui, parce qu'on lui fait confiance, va placer dans nos cœurs, petit à petit, ou d'une manière surprenante parfois, mais des fois petit à petit, va placer la tranquillité, la patience, l'assurance d'être conduit par lui, et en tous les cas d'être entre ses mains. C'est intéressant, dans le livre du prophète Ésaïe, alors que Israël était occupé, à part la ville de Jérusalem, tout le territoire d'Israël était occupé par les adversaires, et les Israélites se posaient des questions sur l'intervention de Dieu. Comment se fait-il que le territoire soit occupé par des adversaires, alors que nous sommes le peuple du seul Dieu unique, vivant et vrai? Et dans cette situation, Dieu va dire par la bouche d'Ésaïe, au chapitre 41 du livre d'Ésaïe, versets 8 à 10, « Mets-toi, Israël, mon serviteur, etc. Ne crains point, car je suis avec toi, car je suis ton Dieu, ne promène pas des regards inquiets. » C'est un petit chant évangélique, d'ailleurs, ça. Je ne sais pas si vous l'avez connu, ce petit chant. Hein. C'est extraordinaire, ça. Quelque part, qu'est-ce que Dieu est en train de faire au peuple découragé, près de la dépression, en quelque sorte? Dieu réaffirme simplement l'élection. Je vous ai élu. Vous m'appartenez. Une des grandes doctrines fondamentales des Saintes Écritures, l'élection. Dieu n'est pas en train de manifester sa toute-puissance dans cette période-là, par rapport à Israël, mais il leur rappelle simplement, vous êtes dans l'épreuve, votre territoire est occupé, je rappelle que je suis votre Dieu et que je suis aux commandes de votre vie et du destin de la nation d'Israël. Que nous puissions saisir pour nous-mêmes, à titre individuel, cette vérité. Si vous êtes dans le découragement, voire l'abattement, peut-être début de déprime, comme l'on dit, hein, n'oubliez pas l'élection. Dieu ne nous abandonne jamais. Dieu a le regard sur chacun d'entre nous en permanence et Dieu déroule son plan, c'est-à-dire sa volonté à laquelle personne ne peut s'opposer, ni même les puissances des démoniaques. Personne ne peut s'opposer à la volonté de Dieu vis-à-vis de chacun d'entre nous. Rappelons-nous donc de notre élection en Jésus-Christ. Et pour continuer... Le Seigneur dit que lorsqu'on lui remet par la prière, avec action de grâce, nos demandes, nos supplications, nos besoins, alors la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est une expérience que vous avez certainement vécue plusieurs fois. Situation difficile, impossibilité d'intervenir au plan humain et pourtant être en paix. Ce qui frappe les hommes et les femmes qui nous entourent, c'est la paix du chrétien dans les situations difficiles. Deuil, injustice, vous savez, dans le monde du travail, les gens vous regardent, hein, ils savent que vous êtes chrétien. Enfin, j'espère que les gens savent que vous êtes chrétien. Et alors, ils vous regardent vivre. Ils savent plus ou moins ce qui vous arrive, puisque vous avez l'occasion parfois de partager des choses. Et donc, ce qui les frappe, c'est justement cette paix dans laquelle Dieu nous entoure et dans laquelle Dieu nous maintient. Une paix qui dépasse toute intelligence. Nous devrions être angoissés. Nous devrions être découragés. Et nous ne le sommes pas. Et pourtant, la situation est bien réelle. Et c'est pour cela que le Seigneur nous demande de lui faire connaître nos besoins avec des actions de grâce, car il est capable, sans rien arranger de visible à vue humaine, pardon, dans un premier temps, sans que la situation n'ait changé, mais que nos cœurs et nos âmes soient investis par sa paix et et que nos pensées soient gardées en Jésus-Christ. Dans le fond, on peut dire que le chrétien est exposé à tous ses ennemis du moment et à tous les dangers aussi longtemps qu'il ne rend pas grâce et qu'il porte ses préoccupations en lui-même. Vous savez, le grand danger pour nous, les chrétiens et les êtres humains en général, c'est de porter nos soucis. Et quand on porte nos soucis, quelque part, on est fermé à Dieu. C'est très difficile d'être fermé à Dieu et d'en prendre conscience. C'est douloureux d'être fermé à Dieu. Mais parfois, on n'en a même pas conscience que l'on est fermé à Dieu. On arrête de prier. Je me souviens de ce chrétien qui me dit, « Jean, je ne prie plus. Je n'ai plus envie de lire ma Bible. Je vis une situation que j'estime injuste. » Quelque part, était en train de m'exprimer, sans oser véritablement le verbaliser, était en train d'exprimer qu'il en voulait à son Seigneur. Mais vous savez, il y a des choses qu'on peut penser, c'est autre chose que de les verbaliser. Mais le pasteur que je suis, discernant cela, je lui dis, mais tu es fermé à Dieu, tu n'offres plus à Dieu, tu ne proposes plus à Dieu d'intervenir dans ta vie, tu lui en veux. Et il m'a regardé, il m'a dit, oui, j'en veux à Dieu, c'est trop injuste que je vis. Et je lui ai dit, tu es fermé à Dieu là. Et tu ne peux plus bénéficier de sa présence dans l'injustice, de sa présence dans l'épreuve. Je lui ai dit, ouvre ton âme, ouvre ton cœur, répands tes besoins. Et puis on a pu le faire ensemble. Et quand nous nous sommes relevés de ce moment de prière où on était à genoux devant le Seigneur, il n'était plus le même. Il m'a dit, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Je lui ai dit, ne laisse pas l'ennemi te fermer de nouveau, Seigneur. Ensuite, vous avez les versets 8 à 9. Et nous allons donc terminer avec cela. C'est intéressant cette structure de texte. Dans un premier temps, il y a donc cette joie qui vient du Seigneur, il y a la douceur qui doit être connue de tous les hommes et que le Seigneur nous communique par sa grâce. Il y a l'invitation à supplier, prier avec des actions de grâce et la promesse et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Et puis là, il bascule sous une autre facette de cette même vérité de la vie chrétienne. Il dit au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et puis, il va se présenter comme modèle. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Dieu sait que nous vivons dans un monde particulier, qui n'est pas le monde de la perfection, mais le monde lié à la chute. Et là, il nous donne des ordres et des nécessités qu'on doit respecter en toutes circonstances, dont on doit tenir compte. Quelle que soit la situation que l'on traverse en tant que chrétien, il y a des choses dont on doit tenir compte. En quelque sorte, c'est comme quand un navire est dans la tempête, il doit garder le cap. Il ne peut pas s'amuser à faire n'importe quoi. Un chrétien a une direction. Et il y a des choses très simples qu'il faut absolument mettre en pratique et respecter, au risque de partir littéralement à la dérive et de chavirer. Le christianisme, c'est la connaissance de Dieu, le christianisme biblique. C'est la connaissance de Dieu et par conséquent la connaissance des commandements, la soumission aux commandements, ce qui veut dire l'observation des commandements. Et là, Dieu nous invite à participer avec lui, sous sa direction et son autorité, à un travail personnel, exprimé en quelque sorte d'une manière concrète que nous l'aimons et que nous voulons vivre pour lui. Et c'est pour cela qu'il dit au reste frères que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Première indication. Sous-entendu, comme pour chacun d'entre nous, peut-être un ménage à faire dans nos vies. Il y a des tas de choses auxquelles nous pensons, que nous lisons, des images que nous regardons au travers de la télévision, les films ou que sais-je. Et là, l'Écriture sainte nous dit, mais qu'est-ce qui est l'objet de vos pensées? Et l'objet de vos pensées, voilà la liste des choses vraies, justes, honorables, louables, enfin, etc. Il y a donc une discipline à s'imposer, des choses à garder, des choses à refuser, des choses vers lesquelles dont nous devons nous nourrir, des choses que nous devons repousser. Et là, c'est l'exercice, en quelque sorte, de la piété, d'une authentique vie chrétienne. Le contrôle de nos pensées, le contrôle de la nourriture pour nos âmes. Est-ce que nous nous nourrissons à deux sources ou à plusieurs sources, ou est-ce que nous nourrissons à la source qui plaît à Dieu? Qu'est-ce que nous allons voir comme film? Qu'est-ce que nous lisons? Qu'est-ce que nous regardons à la télé? Comment est-ce que nous occupons notre temps? Qu'est-ce que nous faisons de nos vies? Comme je le disais hier après-midi, en dehors de Dieu, de nous-mêmes et de notre conjoint si nous sommes mariés et de nos enfants si nous en avons, personne d'autre ne nous connaît véritablement dans ce que nous faisons, ce que nous pensons, ce que nous sommes dans le fond, dans le secret de nos vies, dans l'intimité de nos vies. Et là, l'Écriture sainte nous invite à considérer ces choses avec sérieux et à mettre calmement, mais d'une manière ferme et définitive, de l'ordre dans ce que nous abordons tout au long de notre vie. Et chose curieuse, il dit, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu de moi, pratiquez-le. Donc il se présente en modèle. Et nous avons tout au long du Nouveau Testament, au travers du livre, à partir du livre des Actes et ensuite les Épîtres, tout l'exemple du comportement de l'apôtre Paul, dont nous devons nous inspirer et que nous devons mettre en pratique en demandant à Dieu, en le suppliant de pouvoir vivre ces choses. Et puis il rajoute cette phrase extraordinaire, « Et le Dieu de paix sera avec vous ». Il n'est pas question de ressentir quelque chose de particulier, mais de savoir, parce que l'on marche dans la lumière des choses qui plaisent à Dieu, de savoir qu'il est avec nous. Et ainsi, cette stabilité qui provient de la connaissance de la volonté de Dieu, de sa mise en pratique de cette volonté, nous communique la certitude que Dieu est avec nous. Nous communique la paix, nous communique la douceur, nous communique la soumission à Dieu, l'obéissance, la tranquillité, la stabilité et la capacité donc de partager avec d'autres et d'attirer d'autres par la richesse de ce que Dieu a accompli dans nos âmes et de ce qu'il accomplit par son Esprit Saint dans nos âmes. Dieu, notre Seigneur, le Dieu des Saintes Écritures, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le seul Dieu vivant et vrai, est le Dieu de ceux qui sont reconnaissants, et il est le Dieu de ceux qui pratiquent sa parole. Que Dieu donc nous conduise tout au long de cette année dans les chemins du Seigneur, pour sa gloire et pour notre affermissement et notre développement de la nature de Christ en chacun d'entre nous. Que Dieu vous bénisse. Merci pour le temps que j'ai passé avec vous. C'était un plaisir pour moi. Merci pour votre accueil et que la grâce de Dieu accompagne chacune des églises que nous représentons. Amen.